Chapitre 6. Le capitaine Hardcastle. Nous les appelions des maîtres à cette époque, non des professeurs. Et à Saint-Peter, celui que je redoutais le plus, à part le principal, c'était le capitaine Hardcastle. Cet homme mince et nerveux était un grand amateur de football. Sur le terrain de foot, il portait une culotte de sport blanche, des sandales de gymnastique blanches et de courtes chaussettes blanches. Il avait des jambes minces et dures comme celles d'un bélier, et la peau autour de ses mollets était presque exactement de la couleur du gras de mouton. Ses cheveux n'étaient pas roux, mais d'un vermillon éclatant, couleur d'orange mûr, et plaqués à l'aide d'une énorme quantité de brillantine, comme ceux du principal. Sa raie formait une ligne blanche au milieu de son crâne, une ligne si droite qu'elle semblait tracée à la règle. De part et d'autre, on voyait les traces du peigne imprimées dans cette chevelure orange et graisseuse, telles des rails de tramway. Le capitaine Hardcastle arborait une moustache de la même couleur que ses cheveux, et quelle moustache! Une vision absolument terrifiante, épaisse broussaille orange qui poussait et fleurissait entre son nez et sa lèvre supérieure et lui barrait le visage de la moitié d'une joue jusqu'à la moitié de l'autre. Il ne s'agissait pas d'une de ces moustaches du genre brosse à ongles, courte, raide et bien taillée. Elle n'était pas non plus longue et tombante, style morse. Non, elle se composait d'une masse de bouclettes retroussées vers le haut, comme si elle avait subi une permanente ou le traitement d'un fer à friser chauffé chaque matin sur la minuscule flamme d'un réchaud à alcool. Le seul autre procédé qui lui aurait permis d'obtenir cet effet de boucle, avions-nous décidé, c'était un brossage quotidien prolongé des poils vers le haut, avec une brosse à dents bien dure devant une glace. Derrière la moustache rougeoyait un visage brutal au front bas et sillonné de rides profondes qui trahissaient une intelligence des plus limitées. « La vie est une énigme », semblait dire le front plissé, « et le monde un endroit dangereux. Tous les hommes sont des ennemis et les petits garçons des insectes qui vous agressent et vous mordent à moins que vous ne preniez les devants pour les écrabouiller. » Le capitaine Hardcastle était incapable de rester en place. Sa tête orange remuait perpétuellement, agitée de mouvements saccadés des plus alarmants. Chaque saccade s'accompagnait d'un petit grognement qui lui sortait des narines. Il avait servi dans l'infanterie durant la Grande Guerre, et c'était alors, bien entendu, qu'il avait gagné ses galons. Mais même de dérisoires insectes comme nous savaient que le grade de capitaine n'avait rien de particulièrement exaltant. Il fallait qu'un homme n'ait vraiment aucun autre titre de gloire pour s'y cramponner dans la vie civile. C'était déjà peu reluisant de continuer à se faire appeler « commandant » une fois la guerre terminée, mais se faire appeler « capitaine », c'était vraiment en dessous de tout. Le bruit courait que ces tics permanents, ces secousses de la tête, ces grognements, étaient le résultat d'un traumatisme de guerre, mais nous ne savions pas exactement ce que cela signifiait. Nous supposions qu'un objet avait dû exploser tout près de lui dans un fracas terrifiant, le faisant sauter en l'air et que, depuis, il n'avait plus cessé de sauter. Pour une raison que je n'ai jamais réussi à comprendre vraiment, le capitaine Hardcastle m'avait pris en grippe le jour même de mon arrivée à Saint-Peter's. Peut-être parce qu'il enseignait le latin, matière pour laquelle j'étais peu doué. Peut-être parce qu'à l'âge de 9 ans, j'étais déjà presque aussi grand que lui. Ou plutôt parce que sa gigantesque moustache orange me déplut d'emblée et qu'il me surprenait souvent en train de la fixer avec un petit sourire sans doute ironique. Il me suffisait de passer à 3 mètres de lui dans un couloir pour qu'il me foudroie du regard et vocifère « Tenez-vous droit, mon garçon, les épaules en arrière !» ou « Sortez donc les mains de vos poches !» ou « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, si je peux me permettre cette question? Qu'est-ce qui vous fait ricaner ?» ou encore le plus insultant de tout « Dites donc, vous, comment vous appelez-vous déjà? Allez, au travail !» Je savais donc que ce n'était qu'une question de temps avant que le bouillant capitaine ne me coince pour de bon. Le drame se noua au 2e trimestre, alors que j'avais exactement 9 ans et demi durant l'étude du soir. Chaque jour de la semaine, tous les élèves passaient 1 heure dans la grande salle d'études, entre 6 et 7 heures pour faire leurs devoirs. Le maître, de service pour la semaine, assis sur une estrade à l'un des bouts de la salle, veillait à la discipline. Certains lisaient un livre tout en surveillant l'étude, et d'autres corrigeaient des copies, mais pas le capitaine Hardcastle. Perché sur l'estrade, il remuait la tête et grognait sans jamais baisser le regard sur son bureau. Durant 60 minutes, ses petits yeux d'un bleu laiteux épiaient sans trêve la salle, à l'affût de la moindre peccadille, et que Dieu vienne en aide au garçon qui s'en rendait coupable. Les règles à l'étude étaient simples, mais strictes. Il était interdit de lever le nez de son travail et interdit de parler. Elle se bornait là, mais elle ne vous laissait guère de marge. Dans des circonstances extrêmes, et je n'ai jamais su en quoi elles consistaient, vous pouviez lever la main et attendre qu'on vous demande de parler. Mais vous aviez intérêt à être bien sûr que les circonstances soient vraiment extrêmes. Deux fois seulement. Au cours des 4 années que j'ai passées à St. Peter's, j'ai vu un élève lever la main à l'étude. La première fois, la scène se déroula ainsi. Le maître. Qu'est-ce que c'est ? L'élève. S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous m'autoriser à aller aux toilettes ? Le maître. Certainement pas, vous auriez dû y aller avant. L'élève. Mais monsieur, s'il vous plaît, monsieur, avant je n'avais pas envie, je ne savais pas. Le maître. Et à qui la faute ? Reprenez votre travail. L'élève. Mais monsieur, oh monsieur, je vous en prie, monsieur, laissez-moi y aller. Le maître. Un mot de plus et vous aurez des ennuis. Naturellement, le malheureux garçon souilla son pantalon, ce qui provoqua un drame en haut avec la surveillante. La deuxième fois, je me rappelle clairement que c'était en été, le garçon qui leva la main s'appelait Braithwaite. Il me semble également me rappeler que le maître qui surveillait l'étude était notre ami, le capitaine Hardcastle, mais je n'en jurerais pas. Le dialogue fut à peu près le suivant. Le maître. « Ouais, qu'est-ce que c'est ?» Braithwaite. « S'il vous plaît, monsieur, une guêpe est entrée par la fenêtre et m'a piqué à la lèvre, et ça enfle. » Le maître. « Une quoi ?» Braithwaite. « Une guêpe, monsieur. » Le maître. « Plus fort, mon garçon, je ne vous entends pas. Une quoi est entrée par la fenêtre ?» Braithwaite. « Je ne peux pas parler plus fort, monsieur, avec ma lèvre qui enfle. » Le maître. « Avec quoi qui enfle ? Vous essayez d'être drôle ?» Braithwaite. « Non, monsieur, je vous assure que non, monsieur. » Le maître. « Exprimez-vous correctement, mon garçon. Qu'est-ce qui vous prend ?» Braithwaite. « Je vous l'ai dit, monsieur, j'ai été piqué, monsieur. Ma lèvre enfle. Ça fait très mal. » Le maître. « Très mal. Qu'est-ce qui fait très mal ?» Braithwaite. « Ma lèvre, monsieur, elle est de plus en plus grosse. » Le maître. « Quel devoir faites-vous ce soir ?» Braithwaite. « Les verbes français, monsieur, nous devons les écrire. » Le maître. « Vous écrivez avec votre lèvre ?» Braithwaite. « Non, monsieur, mais vous comprenez ?» Le maître. « Tout ce que je comprends, c'est que vous faites un bruit infernal et que vous dérangez tout le monde dans cette salle. Maintenant, remettez-vous au travail. »
Ils étaient vraiment durs, ces maîtres. Ne vous y trompez pas, et si l'on tenait à survivre, il fallait soi aussi s'endurcir. Mon tour vint, comme je l'ai déjà dit, au cours du 2e trimestre. Et cette fois encore, c'était le capitaine Hardcastle qui nous surveillait. Il faut savoir qu'à l'étude, chaque élève avait un pupitre individuel en bois. Ce pupitre comportait le classique plan incliné, avec au sommet une étroite bande plate creusée d'une rainure pour le porte-plume et d'un petit trou à droite réservé à l'encrier. Nos plumes avaient des becs fendus qu'il fallait tremper dans l'encrier toutes les 6 ou 7 secondes quand on écrivait. Les crayons à billes et les feutres n'avaient pas encore été inventés, les stylos étaient interdits. Nos plumes étaient très fragiles et la plupart des élèves en gardaient une petite boîte en réserve au fond de leur poche. Nous faisions nos devoirs. Le capitaine Hardcastle était assis sur l'estrade devant nous, caressant sa moustache orange, remuant la tête, grognant à travers ses narines. Son regard parcourait inlassablement la salle, guettant le moindre méfait. Le silence n'était troublé que par les petits grognements du capitaine Hardcastle et par le grincement assourdi des plumes courant sur le papier. De temps à autre, résonnait un ping quand l'un d'entre nous plongeait trop brutalement sa plume dans son minuscule encrier de porcelaine blanche. Le désastre eut lieu lorsque je heurtais bêtement contre mon pupitre le bec de ma plume qui se cassa. Je n'avais pas de plume de rechange sur moi, mais un accident de ce genre n'avait jamais été accepté comme excuse pour ne pas finir ses devoirs. Le sujet de notre rédaction était le suivant. Histoire de la vie d'un penny. J'ai conservé la copie dans mes papiers. J'avais écrit un début satisfaisant et je continuais sur ma lancée lorsque je cassais mon bec de plume. Il y avait encore une demi-heure d'étude et je ne pouvais pas rester tout ce temps à ne rien faire. Je ne pouvais pas non plus lever la main et dire au capitaine Hardcastle que j'avais cassé ma plume. Je n'osais pas, tout simplement. Et en vérité, j'étais vraiment désireux de terminer cette rédaction. Je savais exactement ce qui allait arriver à mon penny au cours des 2 pages suivantes et ne pouvais supporter l'idée de laisser inachevée ma narration. Je jetai un coup d'œil vers ma droite. Le garçon assis à côté de moi s'appelait Dobson. Du même âge que moi, 9 ans et demi, il était très gentil. Encore maintenant, 60 ans après, je me rappelle que le père de Dobson était médecin et qu'il habitait, comme je l'avais appris par l'étiquette collée sur la boîte à nanan de Dobson, The Red House, Uxbridge, Middlesex. Le pupitre de Dobson touchait presque le mien. Je crus pouvoir prendre le risque. Je gardai la tête baissée tout en surveillant attentivement le capitaine Hardcastle. Lorsque je fus à peu près sûr qu'il regardait dans une autre direction, je mis une main devant ma bouche et chuchotai «
Dobson, Dobson, tu peux me prêter une plume ?»
Il y eut une brusque explosion sur l'estrade. Le capitaine Hardcastle s'était levé d'un bond et pointait un doigt sur moi en vociférant.
« Vous parlez ! Je vous ai vu parler, n'essayez pas de nier ! Je vous ai vu nettement parler derrière votre main !»
Je me pétrifiais de terreur. Tous les autres garçons s'étaient arrêtés de travailler et avaient levé la tête.
« Niez-vous que vous étiez en train de parler ?»
hurla le capitaine.
« Non, monsieur, et niez-vous que vous avez essayé de tricher ? Niez-vous que vous demandiez à Dobson de vous aider pour votre rédaction ?»«
Non, monsieur, pas du tout, je ne trichais pas. »«
Bien sûr que si ! Sinon, si je peux me permettre la question, pourquoi auriez-vous parlé à Dobson ? Vous ne lui demandiez pas, je suppose, des nouvelles de sa santé ?»
Peut-être serait-il bon que je rappelle de nouveau mon âge au lecteur. Je n'étais pas un garçon de 14 ans plein de sang-froid. Je n'avais pas 12 ni même 11 ans. J'avais 9 ans et demi. Et à cet âge-là, on est mal équipé pour tenir tête à un adulte aux cheveux d'un orange flamboyant et au caractère violent. On ne peut guère que bredouiller.
J'ai cassé ma plume, monsieur, chuchotai-je. Je demandais à Dobson s'il pouvait m'en prêter une, monsieur.
Vous mentez ! Cria le capitaine Hardcastle. Une note de triomphe perçait dans sa voix.
« J'ai toujours su que vous étiez un menteur et un tricheur également.
Je voulais simplement une plume, monsieur. »«
À votre place, je la bouclerai !» tonna la voix sur l'estrade. « Vous ne faites qu'aggraver votre cas. Je vous donne une barre !»
Ce mot avait une résonance funeste.
« Une barre. Je vous donne une barre !»
Tout autour de moi, je sentis un grand élan de sympathie de tous les autres garçons envers moi, mais personne ne bougea ou n'émit un son. Je dois expliquer ici le système d'étoiles et de barres en usage à Saint-Peters. Si vous aviez exceptionnellement bien travaillé, on vous décernait un quart d'étoile, et un point rouge était inscrit au crayon à côté de votre nom sur le tableau d'affichage. Quand vous aviez eu droit à 4 quarts d'étoile, une ligne rouge reliait les 4 points, indiquant que vous aviez maintenant complété votre étoile. Pour un travail exceptionnellement médiocre ou pour mauvaise conduite, vous aviez droit à une barre, ce qui entraînait automatiquement une raclée administrée par le principal. Chaque maître possédait un carnet de quarts d'étoile et un carnet de barre, et chaque feuillet devait être signé, rempli et détaché du carnet, exactement comme un chèque d'un chéquier. Les quarts d'étoile étaient roses, les barres d'un sinistre bleu-vert. L'élève qui recevait une étoile ou une barre empochait le feuillet jusqu'au lendemain matin après la prière, moment où le principal ordonnait à tout élève ayant reçu l'un ou l'autre de s'avancer en présence de toute l'école et de lui remettre le billet. Les barres étaient considérées comme une punition si épouvantable qu'elles n'étaient que rarement données. De façon générale, 2 ou 3 garçons par semaine au plus recevaient une barre. Et voilà que le capitaine Hardcastle m'en infligeait une. « Venez ici » ordonna-t-il. Je me levai de mon pupitre et m'approchai de l'estrade. Il avait déjà sorti son carnet de barres et remplissait un feuillet. Il écrivait à l'encre rouge et sur la ligne où figurait le mot « motif », il inscrivit « à parler à l'étude, essayer de tricher et mentir. Il signa le feuillet et le détacha du carnet, puis sans hâte, il remplit le talon. Brandissant le terrible feuillet bleu-vert, il l'agita dans ma direction, mais sans lever la tête. Je le lui pris des doigts et regagnai ma place. L'école, tout entière, me suivit des yeux. Pendant le reste de l'étude, je restai assis à mon pupitre à ne rien faire. Privé de plume, je ne pus écrire un mot de plus sur l'histoire de la vie d'un Penny, mais on me fit terminer ma rédaction l'après-midi suivant au lieu de me laisser participer au jeu des autres. Le lendemain matin, dès la prière terminée, le principal demanda la remise des étoiles et des barres. Je fus le seul à me lever. Les maîtres assistants étaient assis sur des chaises à dossier droit de part et d'autre du principal, et j'aperçus le capitaine Hardcastle les bras croisés sur la poitrine, la tête agitée de soubresauts qui me surveillait intensément de ses yeux bleus laiteux, arborant une expression de triomphe. Le principal prit le feuillet, lut l'inscription et déclara « Venez me voir dans mon bureau dès que nous aurons fini. » 5 minutes plus tard, marchant comme sur des œufs, tremblant de la tête aux pieds, je franchis la porte matelassée et pénétrai dans le sanctuaire du principal. Je frappai à la porte de son bureau. « Entrez !» Je tournai la poignée et avançai dans la grande salle carrée aux murs tapissés de bibliothèques, meublés de fauteuils et d'un gigantesque bureau au-dessus de cuir rouge placé en diagonale dans un angle du fond. Le principal était assis derrière ce bureau, ma barre entre les doigts. « Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?» demanda-t-il, et ses dents de requin luisaient, menaçantes, entre ses lèvres. « Je n'ai pas menti, monsieur, dis-je, je vous le jure, et je n'essayais pas de tricher. »«
Le capitaine Hardcastle affirme le contraire, » répliqua le principal. « Traitez-vous le capitaine Hardcastle de menteur ?»«
Non, monsieur, non, monsieur. J'éviterai de le faire à votre place. J'avais cassé ma plume, monsieur, et je demandais à Dobson s'il pouvait m'en prêter une. »
« Ce n'est pas ce que dit le capitaine Hardcastle. Il affirme que vous demandiez de l'aide pour votre rédaction. »«
Oh non, monsieur, pas du tout. J'étais très loin du capitaine Hardcastle et je chuchotais. Je ne pense pas qu'il ait pu entendre ce que je disais, monsieur. »«
Ainsi donc, vous le traitez bien de menteur. »«
Oh non, monsieur, je ne me permettrai jamais une chose pareille. »
Je n'avais aucune chance de gagner contre le principal. En fait, j'aurais aimé répondre... « Oui, monsieur, si vous voulez vraiment le savoir, monsieur, je traite le capitaine Hardcastle de menteur parce que c'est un menteur. » Mais c'était hors de question. Il me restait cependant un dernier atout à jouer, ou du moins je le croyais.
« Vous pourriez demander à Dobson, monsieur, » chuchotai-je.
« Demander à Dobson !» s'exclama-t-il. « Pourquoi irais-je demander à Dobson ? Le capitaine Hardcastle est un officier et un gentleman. » Il m'a dit ce qui s'était passé. Je ne vois vraiment pas pourquoi j'irais demander à un petit imbécile si le capitaine Hardcastle dit la vérité.
Je demeurai silencieux.
Pour avoir parlé à l'étude, poursuivit le principal, pour avoir essayé de tricher, avoir menti, je vais vous donner 6 coups de canne.
Il se leva de son bureau et se dirigea vers le buffet d'angle de l'autre côté de la pièce. Levant le bras, il prit sur le sommet 3 cannes jaunes d'une extrême minceur, chacune se terminant par une poignée recourbée. Pendant quelques secondes, il les garda entre les mains, les examinant avec soin, puis il en choisit une et reposa les 2 autres sur le buffet.
« Penchez-vous en avant !»
Cette canne me terrifiait. Elle aurait terrifié n'importe quel petit garçon au monde. Ce n'était pas seulement un instrument pour vous battre, c'était une arme destinée à vous blesser. Elle lacérait la peau. Elle provoquait des ébrures boursouflées bleues et violettes qui mettaient 3 semaines à disparaître, et durant ces 3 semaines, vous sentiez constamment votre cœur battre tout le long de ces blessures. Je fis une dernière tentative, d'une voix légèrement hystérique.
« Je ne suis pas coupable, monsieur, je vous jure que je dis la vérité.
Taisez-vous et penchez-vous, par ici, et touchez vos doigts de pied. » Très lentement, je me pliai en 2. Puis je fermai les yeux et me raidis, attendant le premier coup. On aurait dit un coup de fusil. Quand on reçoit un violent coup de canne sur les fesses, il faut environ 4 secondes pour que l'on ressente la douleur. Aussi, l'expert dans ce genre de châtiment attend toujours entre chaque coup pour permettre à la souffrance d'atteindre sa pleine intensité. Ainsi donc, pendant un bref instant, après le premier crack, je ne ressentis quasiment rien. Puis, brusquement, la terrifiante brûlure au fer rouge s'irradia dans mes fesses, et au moment où elle atteignait son degré le plus crucifiant, le 2e coup s'abattit. Je serrai mes chevilles de toutes mes forces et me mordis la lèvre inférieure. J'étais farouchement décidé à ne pas émettre 1 son, ce qui n'aurait fait que donner plus grande satisfaction à mon bourreau. Crac ! Une pause de 5 secondes. Crac ! Une autre pause. Crac ! Encore une pause. Je comptais les coups, et lorsque le 6e atterrit, je compris que j'allais survivre en silence.
« Ça ira comme ça !» dit la voix derrière moi.
Je me redressai et empoignai mon derrière à 2 mains aussi fort que je pus. C'est toujours la réaction instinctive et automatique. La douleur est si atroce qu'on essaie de l'empoigner pour l'arracher, et plus on serre, et plus on a l'impression d'être soulagé. Sans regarder le principal, claudiquant en travers de l'épais tapis rouge, je me dirigeais vers la porte. La porte était fermée, personne n'allait me l'ouvrir. Aussi, pendant 2 secondes, je dus lâcher d'une main mes fesses pour tourner la poignée. Une fois sorti de la pièce, je me mis à sautiller sur place dans l'entrée des appartements privés du principal. Juste en face de son cabinet était située la salle de réunion des maîtres assistants. Ils s'y trouvaient tous à ce moment-là, attendant de se disperser en direction de leurs classes respectives, mais je ne pus m'empêcher de remarquer, bien que souffrant le martyre, que cette porte était ouverte. Pourquoi était-elle ouverte ? Voulaient-ils tous entendre distinctement le bruit des coups de canne ? Oui, bien sûr, et j'étais persuadé que c'était le capitaine Hardcastle qui l'avait ouverte. Je l'imaginais debout au milieu de ses collègues, grognant de satisfaction à chaque coup de canne. Les petits garçons peuvent se montrer très solidaires envers un des leurs qui a eu des ennuis, tout particulièrement lorsqu'ils estiment qu'il a été victime d'une injustice. Lorsque je regagnais la salle de classe, je fus environné de voix et de visages compatissants, mais un geste en particulier restait gravé dans ma mémoire. Un garçon de mon âge, un certain Highton, était tellement révolté par toute cette histoire qu'il me déclara avant le déjeuner, ce jour-là, « Tu n'as pas de père, mais moi si. Je vais écrire à mon père pour lui dire ce qui s'est passé, il fera quelque chose. » « Il ne peut rien faire, » répondis-je. « Mais si, bien sûr, » dit Highton, « et il le fera. Mon père ne les laissera pas s'en tirer comme ça. »« Où est-il en ce moment ?»« Il est en Grèce, » répondit Highton, « à Athènes, mais ça ne change rien. » Et le petit Highton entreprit sur le champ d'écrire à ce père qu'il admirait tant, mais bien entendu sans résultat. C'était néanmoins une initiative touchante et généreuse d'un petit garçon envers un autre, et je ne l'ai jamais oubliée.